La maisonnée du fermier Casbonne et tous ses invités se levèrent tôt le lendemain. On n'avait rien entendu cette nuit-là, mais il y aurait certainement d'autres ennuis avant la fin de la journée.
« Semble qu'aucun bandit soit resté à cul-de-sac, » dit Casbonne. « Mais la bande de Carrefour se pointera d'une minute à l'autre. »
Après le petit déjeuner, un messager du pays de Touques arriva à cheval. Il exultait.
« Le Thain a soulevé tout notre pays, » dit-il, « et la nouvelle se répand en tous sens comme une traînée de poudre. Les bandits qui surveillaient nos terres ont fui vers le sud, ceux qui ont pu s'échapper vivants. Le Thain les a pris en chasse pour mieux contrecarrer toute la bande qui se tient là-bas. Mais il vous renvoie M. Pérégrin avec tous ces gens dont il peut se passer. »
Les autres nouvelles furent moins bonnes. Mary, restée dehors toute la nuit, revint au galop vers 10 heures.
Une bande importante se trouve à environ 4 000 d'ici, dit-il. Ils suivent la route venant de Carrefour, mais bon nombre de brigands errants les ont rejoints. Ils doivent être près d'une centaine, et ils mettent le feu partout sur leur passage, maudit soit-il.
Ah, ces gens-là vont pas rester pour bavarder. Ils vont nous tuer s'ils le peuvent,
dit le fermier Casbonne.
Si les Touques arrivent pas bientôt, on ferait mieux de se mettre à couvert et de tirer sans discuter. Il va forcément y avoir de la bagarre avant que tout soit réglé, monsieur Frodo.
Mais les Touques arrivèrent bientôt. Ils entrèrent au village avant peu, forts d'une bonne centaine, marchant de Toquebourg et des Côtes Vertes avec Pipin à leur tête. Mary disposait à présent d'une hobiterie assez nombreuse et solide pour s'occuper des bandits. Ceux-ci, rapportèrent les éclaireurs, formaient un groupe serré. Ils savaient que la campagne s'était soulevée contre eux. Une insurrection qu'ils entendaient visiblement écraser sans état d'âme en son centre à Bello. Mais si déterminés qu'ils étaient, ils ne semblaient compter aucun chef dans leur rang qui comprit l'art de la guerre. Ils avançaient sans la moindre précaution. Mary eut au fait d'établir ses plans. Les bandits arrivèrent, martelant la route de l'Est. Et sans s'arrêter, ils s'engagèrent sur la route de Bello, qui montait sur une certaine distance entre de hauts talus, eux-mêmes surmontés de haies basses. Derrière un tournant, à environ un furlong de la grand-route, ils tombèrent sur une forte barricade faite de vieilles voitures de ferme renversées. Celle-ci les arrêta. Au même moment, ils s'avisèrent que les haies des deux côtés, juste au-dessus de leur tête, étaient entièrement bordés de hobbits. Derrière eux, d'autres hobbits sortirent encore quelques charrettes dissimulées dans un champ, leur coupant ainsi la retraite. Une voix les interpella d'en haut.
« Il semble que vous ayez donné dans un piège, » dit Mary. « Vos camarades de Hobbitville ont fait de même. L'un d'eux est mort et les autres sont prisonniers. Déposez vos armes, puis reculez de 20 pas et asseyez-vous. « Quiconque essaiera de fuir recevra une flèche. »
Mais les bandits n'étaient pas hommes à s'en laisser imposer si facilement. Quelques-uns s'exécutèrent, mais furent aussitôt mis à mal par leurs compagnons. Au moins une vingtaine firent volte-face et se ruèrent contre les charrettes. 6 furent abattus, mais les autres percèrent la barricade, tuant 2 hobbits, puis se débandèrent à travers la campagne en direction de la pointe au bois. 2 autres tombèrent en pleine course. Mary fit retentir son corps, et il y eut au loin des sonneries de réponse.
« Ils n'iront pas loin, » dit Pipin. « Tout ce pays fourmille de nos chasseurs à présent. »
Plus près, les hommes pris au piège dans le chemin, encore environ 80, tentèrent d'escalader la barricade et les talus, et les hobbits n'eurent d'autre choix que de tirer sur eux ou de les attaquer à coups de hache. Mais les plus forts et les plus désespérés furent nombreux à s'échapper du côté ouest. Et ils assaillirent brutalement leurs adversaires, car ils ne cherchaient plus tant à fuir qu'à tuer. Plusieurs hobbits tombèrent, et le reste vacillait quand Mary et Pipin, qui se trouvaient du côté est, traversèrent pour donner l'assaut aux bandits. Mary tua lui-même leur chef, une grosse brute aux yeux louches, semblable à un grand orque. Puis, il rappela toutes ses forces, enfermant ce qui restait des hommes dans un vaste anneau d'archers. Peu après, tout était fini. Du côté des bandits, près de 70 gisaient morts sur le champ de bataille et une 12aine étaient prisonniers. 19 hobbits avaient été tués et une 30aine blessés. Les corps des hommes furent empilés sur des chariots, emportés et enterrés dans une vieille sablonnière toute proche. La fosse de la bataille, comme on l'appela par la suite. Les hobbits tombés furent allongés ensemble dans une tombe à flanc de colline, où l'on érigea plus tard une grande pierre entourée d'un jardin. Ainsi finit la bataille de Belleau de 1419, la dernière bataille à s'être déroulée dans le comté et la seule depuis celle des Champs Verts en 1147 aux confins du quartier nord. Pour cette raison, bien qu'heureusement elle n'eût fait que très peu de victimes, un chapitre entier lui est consacré dans le Livre Rouge, et les noms de tous les participants furent consignés dans un rôle et appris par cœur par les historiens du comté. La fulgurante ascension des Casbonnes, en fortune et en notoriété, date de cette époque. Mais tous les récits font figurer en tête du rôle les noms des capitaines Mériadoc et Pérégrin. Frodo avait assisté à la bataille, mais il n'avait pas tiré l'épée et s'était surtout employé à contenir les hobbits qui auraient, dans la colère soulevée par leur perte, tué ceux de leurs adversaires ayant déposé les armes. Au terme des hostilités, et une fois ordonnés les travaux subséquents, Merry, Pipin et Sam le rejoignirent et ils rentrèrent à cheval avec les Casbonnes. Ils prirent leur repas de midi avec quelque retard, puis Frodo dit avec un soupir « Eh bien, je suppose qu'il est temps de nous occuper du chef. »
« Assurément, oui, le plus tôt sera le mieux, » dit Merry. « Et ne sois pas trop indulgent. C'est lui qui a fait venir tous ces bandits, et c'est lui le responsable de tout le mal qu'ils ont causé. »
Le fermier Casbonne assembla une escorte de quelques 2 douzaines de vigoureux hobbits.
« Car on n'est pas vraiment sûr qu'il n'y a plus de bandits à cul-de-sac, » dit-il. « On n'en sait rien. »
Puis ils partirent à pied. Frodo, Sam, Merry et Pipin ouvrirent la marche. Ce fut l'une des heures les plus tristes de toute leur vie. La grande cheminée s'éleva devant eux, et comme ils approchaient du vieux village de l'autre côté de l'eau, entre des rangées d'affreuses nouvelles maisons de part et d'autre de la route, ils virent le nouveau moulin dans toute sa laideur sordide et repoussante, un grand bâtiment de briques à cheval sur le cours d'eau qu'il salissait d'un écoulement fumant et nauséabond. Tout le long de la route de Belleau, les arbres avaient été abattus. Traversant le pont et levant les yeux vers la colline, ils eurent le souffle coupé. Même la vision de Sam dans le miroir ne l'avait pas préparé au spectacle qui s'offrit à eux. Le vieux manoir du côté ouest avait été démoli et remplacé par des rangées de baraques goudronnées. Tous les châtaigniers avaient disparu. Les talus et les haies étaient défoncés. De grands chariots gisaient en pagaille dans un champ piétiné jusqu'à faire disparaître le moindre brin d'herbe. La rue du Jetsac n'était qu'un trou béant, une carrière de sable et de gravier. En haut, cul-de-sac était caché par un amoncellement de grosses cabanes.
« Ils l'ont coupé !» s'écria Sam. « Ils ont coupé l'arbre de la fête !»
Il montra l'endroit où se trouvait auparavant l'arbre sous lequel Bilbo avait fait son discours d'adieu. Il gisait mort et en rondin au beau milieu du champ. Comme si c'était le comble de l'infamie, Sam fondit en larmes. Un rire mit fin à ses pleurs. Un hobbit inamical était paresseusement accoudé sur le mur bas qui enfermait la cour du moulin. Il avait le visage crasseux et les mains noires.
« Quoi, t'aimes pas, Sam ? » ricana-t-il. « Mais t'as toujours été un tendre. Je pensais que t'étais parti sur un de ces navires qui vogue-vogue et dont tu nous rebattais sans cesse les oreilles. Pourquoi que t'es revenu ? On a du travail, nous, maintenant, dans le comté. »
« Je vois bien ça, » dit Sam. « Pas le temps de vous laver, mais encore le temps de vous prélasser. Mais écoute un peu, mon petit sablonnier. » J'ai un compte à régler dans ce village, et si tu continues à m'embêter avec ta gouaille, tu vas ramasser une note trop salée pour toi. »
Tête Sablonnier cracha par-dessus le mur.
« Va donc !» s'écria-t-il. « Tu peux pas me toucher, je suis un ami du patron. Mais lui va te toucher pour de vrai si tu rabats pas ton caquet. »
« Ne gaspille pas ta salive pour cet imbécile, Sam, » dit Frodo. « J'espère que les hobbits ne sont pas nombreux à être devenus comme lui. » Ce serait plus dommageable que tout ce que les hommes ont pu causer.
Tu es grossier et insolent, sablonnier, dit Merry. Et tu ne sais pas de quoi tu parles. Nous montons justement à la colline pour destituer ton cher patron. Nous nous sommes occupés de ces hommes.
Ted resta bouche bée, car il n'avait pas encore remarqué l'escorte qui, sur un geste de Merry, franchit alors le pont. Il regagna le moulin à toutes jambes et en ressortit avec un corps dont il sonna bruyamment.
« Ne t'essouffle pas pour rien !»
lui lança Mary en riant.
« J'ai mieux !»
Levant alors son corps d'argent, il le fit retentir, et son clair appel résonna par-delà la colline. Et dans les trous, les baraques et les tristes maisons de Hobbitville, les hobbits répondirent et affluèrent en nombre, et avec force cris et acclamations, ils suivirent la compagnie sur la route montant à cul-de-sac. Au bout du chemin, le groupe s'arrêta, mais Frodo et ses amis continuèrent. Et ils parvinrent enfin à la demeure naguère si appréciée. Le jardin était rempli de cabanes et de baraques, dont certaines se trouvaient si près des vieilles fenêtres sur l'ouest qu'elles leur bloquaient toute lumière. Il y avait des tas d'ordures un peu partout. La porte était tailladée. La chaîne pendait lâchement à côté de la porte et la sonnette ne tintait plus. Ils frappèrent, mais n'eurent aucune réponse. Enfin, ils poussèrent et la porte céda. Ils entrèrent. L'endroit empestait, rempli d'ordures et d'un incroyable fouillis. Il paraissait inhabité depuis un bon moment.
« Mais où se cache ce misérable loto ?»
dit Mary. Ils avaient fouillé chaque pièce et n'avaient pas trouvé âme qui vive, hormis des rats et des souris.
« Faut-il demander aux autres de fouiller les baraques ?»«
C'est pire que le Mordor, » dit Sam. « Bien pire d'une certaine façon. Ça vous touche intimement parce que c'est chez vous et vous vous rappelez comment c'était avant que tout soit gâté. »«
Oui, c'est le Mordor, »
dit Frodo.
Encore une de ses œuvres. Saruman aussi faisait son œuvre, même quand il croyait travailler pour lui-même. Et c'est aussi vrai pour ceux que Saruman a dupés, comme Loto.
Merry regarda autour de lui avec tristesse et dégoût.
Sortons d'ici, dit-il. Si j'avais su tout le mal que Saruman avait causé, je lui aurais enfoncé ma blague dans la gorge.
Sans doute, sans doute. « Mais vous ne l'avez pas fait, et je puis donc vous souhaiter la bienvenue chez vous. »
Debout à la porte, se tenait Saruman en personne, l'air bien nourri et content de lui. Ses yeux étincelaient de plaisir et de méchanceté. Un éclair se fit jour dans l'esprit de Frodo.
« Charquin !»
s'écria-t-il. Saruman rit.
« Alors le nom vous est connu, hein ?» Tous mes sujets m'appelaient ainsi à Isengard, je pense. Une marque d'affection, sans doute. Mais de toute évidence, vous ne vous attendiez pas à me voir ici.
Non, dit Frodo. Mais j'aurais dû m'en douter. Quelque mauvais tour en passant, par pure mesquinerie. Gandalf m'avait prévenu que vous en étiez encore capable.
Parfaitement capable, dit Saruman. Et plus qu'en passant. « Vous m'avez fait rire, vous autres petits seigneurs hobbits, chevauchant avec tous ces grands personnages, si assurés et si contents de vous-même. Vous croyez vous en être remarquablement bien tirés et pouvoir simplement rentrer chez vous à votre aise, profitant d'un tranquille et agréable petit séjour à la campagne. La maison de Saruman pouvait être jetée sans dessus-dessous, et on pouvait l'évincer, mais personne ne toucherait à la vôtre. Oh non, Gandalf veillerait sur vos intérêts. »
Saruman rit de nouveau.
« Lui, non. Quand ses instruments ont rempli leur usage, il les lâche. » Mais il fallait que vous traîniez après lui, flânant et jacassant, prenant une route deux fois plus longue qu'il n'était nécessaire. Eh bien, me suis-je dit, s'ils sont si bêtes, je vais les devancer et leur donner une bonne leçon. Ah, malin, malin et demi. La leçon eût été plus dure si seulement vous m'aviez laissé un peu plus de temps et d'hommes. Reste que j'ai déjà fait beaucoup, et vous aurez du mal à le réparer ou à le défaire de votre vivant, et il sera agréable d'y penser au regard des préjudices qui m'ont été causés.
Eh bien, si vous tirez agrément de ce genre de choses, dit Frodo, vous me faites pitié. Seul le souvenir vous en restera, j'en ai peur. Partez immédiatement et ne revenez plus jamais.
Les hobbits des alentours avaient vu sortir Saruman de l'une des cabanes, et ils se massèrent aussi contre la porte de cul-de-sac. Entendant l'injonction de Frodo,
Ils grondèrent avec colère.
« Ne le laissez pas partir! Tuez-le! C'est un bandit et un assassin! Tuez-le !»
Saruman promena son regard sur les visages hostiles et sourit.
« Tuez-le !» dit-il moqueur. « Tuez-le, si vous croyez être assez nombreux, mais courageux hobbits !»
Il se dressa de toute sa hauteur et les dévisagea sinistrement de ses yeux noirs.
« Mais n'allez pas croire qu'en perdant tous mes biens, j'ai aussi perdu tout mon pouvoir. Quiconque me frappera sera maudit, et si mon sang souille le comté, votre pays se fanera, et jamais plus il ne guérira. »
Les hobbits reculèrent. Mais Frodo dit,
« Ne croyez pas ce qu'il dit. Il a perdu tout pouvoir, sauf sa voix qui peut encore vous intimider et vous duper, si vous la laissez agir. Mais je ne veux pas qu'il soit tué. Il est inutile de punir la vengeance par la vengeance. Cela ne guérit rien. Partez, Saruman, par le chemin le plus court. »
« Serpent, serpent !»
appela Saruman. Et Langue de Serpent sortit alors d'une cabane voisine, rampant sur le sol, presque comme un chien.
« On reprend la route, serpent !» dit Saruman. « Ces braves gens et leur petit seigneur nous mettent encore à la porte. Dépêche-toi !»
Saruman se retourna prêt à partir, et Langue de Serpent se traîna après lui. Mais alors que Saruman passait devant Frodo, un couteau luisit dans sa main et il frappa subitement. La lame dévia sur la côte de maille dissimulée et se cassa. Une douzaine de hobbits, Sam à leur tête, s'élancèrent avec un cri et jetèrent le gredin au sol. Sam tira l'épée.
« Non, Sam, » dit Frodo. « Ne le tue pas, même maintenant, car il ne m'a fait aucun mal. Et de toute manière, je ne voudrais pas qu'il meure dans ce sinistre état d'esprit. Il était grand autrefois, d'une noble espèce contre laquelle nous ne devrions pas lever la main. Il est déchu, et sa guérison est au-dessus de nos moyens. Mais je voudrais quand même l'épargner dans l'espoir qu'il puisse la trouver. »
Saruman se releva et fixa sur Frodo un regard mêlé d'étonnement, de respect et de haine.
« Tu as grandi, demi-homme. » dit-il. « Oui, tu as beaucoup grandi. Tu es sage, sage et cruel. Tu as ôté toute douceur à ma revanche, et maintenant je dois partir dans l'amertume redevable à ta clémence. Je la hais, et je te hais, toi. Eh bien, je m'en vais, et je ne te tourmenterai plus, mais ne compte pas sur moi pour te souhaiter bonne santé et longue vie. Tu n'auras ni l'une ni l'autre. Mais cela n'est pas de mon fait, je le prédis seulement. »
Il s'éloigna, et les hobbits s'écartèrent de part et d'autre pour le laisser passer. Mais les phalanges blanchirent sur leurs mains crispées, tandis que chacun agrippait son arme. Langue de Serpent hésita, puis il suivit son maître.
« Langue de Serpent, » appela Frodo, « vous n'avez pas à le suivre. Je ne sache pas que vous m'ayez causé aucun tort. Vous pouvez rester ici pour quelque temps, manger et vous reposer jusqu'à ce que vous ayez repris des forces et soyez en mesure de suivre votre propre route. »
Langue de Serpent s'arrêta, tourna la tête et le regarda, presque tenté d'accepter. Saruman se retourna.
« Aucun tort !» gloussa-t-il. « Lui, non. Même quand il rôde la nuit, c'est seulement pour admirer les étoiles. » « Mais n'ai-je pas entendu quelqu'un demander où se cache ce pauvre loto ? Tu le sais, n'est-ce pas, serpent ? Veux-tu le leur dire ?»
Langue de Serpent se recroquevilla contre le sol.
« Non, non !»
gémit-il.
« Dans ce cas, je m'en charge, » dit Saruman. « Serpent a tué votre chef, le pauvre petit bougre, votre gentil petit patron. Pas vrai, serpent ? Poignardé dans son sommeil, si ma mémoire est bonne. Enterré, j'espère. Mais serpent est affamé ces temps-ci. Non, serpent n'est pas très gentil. Vous feriez mieux de me le laisser. »
Une haine farouche parut dans les yeux rouges de Langue de Serpent.
« C'est vous qui m'avez dit, c'est vous qui m'avez demandé !»
siffla-t-il. Saruman rit.
« Tu fais ce que chacun te demande toujours, hein, serpent ? Eh bien maintenant, il dit « viens ».
Il donna un coup de pied au visage de Langue de Serpent, couché à plat ventre, puis il lui tourna le dos et se mit en route. Mais quelque chose céda à ce moment. Langue de Serpent se releva tout à coup, sortant un poignard caché. Puis, grondant comme un chien enragé, il sauta sur le dos de Saruman, tira brusquement sa tête en arrière, lui trancha la gorge et détala en hurlant dans le chemin. Avant que Frodo eût pu se ressaisir ou prononcer une parole, trois arcs de hobbits vibrèrent et Langue de Serpent tomba mort. Au grand désarroi de ceux qui se trouvaient là, une brume grise se forma autour du corps de Saruman, puis, montant à grande hauteur comme la fumée d'un incendie, elle se dressa au-dessus de la colline, telle une vague silhouette dans un pâle linceul. Pendant un instant, elle hésita, se tournant vers l'ouest. Mais de l'ouest vint un vent froid et elle fléchit et se dissipa en un soupir, bientôt réduite à néant. Frodo abaissa sur le cadavre un regard de pitié et d'horreur, car en le regardant, il lui sembla que de longues années de mort se révélaient soudain en lui. Il se racornit et le visage ratatiné se réduisit à des lambeaux de peau sur un crâne hideux. Soulevant un pan du manteau crasseux qui s'étalait à côté, il recouvrit le corps et se détourna.
« Eh bien, c'est la fin de cette histoire-là, » dit Sam. « Une vilaine fin, et j'aurais préféré ne jamais voir ça. Mais c'est un bon débarras. »
« Et aussi la toute fin de la guerre, j'ose espérer, » dit Merry.
« Je l'espère, » dit Frodo. Et il soupira. Le tout dernier sursaut. Et dire que c'est arrivé ici même, devant la porte de cul-de-sac. Parmi tous mes espoirs et toutes mes craintes, je ne me serais jamais attendu à cela. C'est le moins qu'on puisse dire.
Pour moi, ce sera pas la fin avant qu'on ait nettoyé tous les dégâts,
dit Sam d'un air sombre.
Et ça prendra beaucoup de temps et de travail.